Chapitre 27. Un crépuscule maussade tombait sur Londres lorsqu'Obinze pénétra dans le café-librairie et s'assit devant un mocha et un scone aux myrtilles. Ses plantes de pied étaient agréablement endolories. Il ne faisait pas très froid. Il avait transpiré dans le manteau de laine de Nicolas, qui était maintenant suspendu au dos de sa chaise. C'était sa sortie de la semaine. Aller au café-librairie, s'offrir un café hors de prix, lire autant qu'il le pouvait gratuitement et redevenir Obinze. Parfois, il demandait qu'on le dépose au centre de Londres après une livraison et il faisait un tour avant de terminer dans une librairie et de s'asseoir par terre à l'écart du monde. Il lisait des romans américains contemporains parce qu'il espérait y trouver un écho, une forme à ses attentes, une idée de l'Amérique dont il avait rêvé faire partie. Il voulait être au courant de la vie quotidienne en Amérique. Savoir ce que mangeaient les gens et ce qui les motivait, ce qui leur faisait honte et ce qui les attirait. Mais il lisait roman après roman et était toujours déçu. Rien n'était grave, rien n'était sérieux, rien n'était urgent. Et presque tout se diluait en une ironique vacuité. Il lisait les journaux et les magazines américains, mais se bornait à feuilleter les journaux anglais parce qu'ils contenaient de plus en plus d'articles sur l'immigration et que chacun lui serrait la poitrine d'une inquiétude nouvelle. Les écoles submergées par les demandeurs d'asile. Il n'avait toujours pas trouvé quelqu'un. La semaine précédente, il avait rencontré deux Nigérians, des amis éloignés d'un ami, qui disaient connaître une femme d'Europe de l'Est, et il leur avait payé 100 livres. À présent, ils ne le rappelaient pas au téléphone et leur portable était directement branché sur leur boîte vocale. Il avait à peine mangé la moitié de son scone. Il ne s'était pas rendu compte de la rapidité avec laquelle le café s'était rempli. Il se sentait bien, confortablement installé, plongé dans un article de magazine quand une femme et un petit garçon s'approchèrent et demandèrent s'ils pouvaient partager sa table. Ils avaient la peau marron clair et les cheveux noirs. Il pensa qu'ils venaient du Bangladesh ou du Sri Lanka. « Bien sûr, » dit-il. Et il déplaça sa pile de livres et de magazines, bien qu'elle ne se trouvât pas du côté de la table qu'ils allaient utiliser. Le petit garçon paraissait avoir 8 ou 9 ans, portait un pull Mickey et tenait fermement une Game Boy bleue. La femme avait un anneau dans le nez, une bricole minuscule en verre qui scintillait quand elle remuait la tête d'un côté et de l'autre. Elle demanda s'il avait assez de place pour ses magazines et s'il désirait qu'elle déplace un peu sa chaise. Puis elle dit à son fils, d'un ton rieur manifestement destiné à Obinze, qu'elle n'avait jamais été très sûre que ces bâtonnets de bois à côté des paquets de sucre fussent destinés à remuer le café.
« Je ne suis pas un bébé !»
protesta le petit garçon quand elle voulut découper son muffin. « J'ai seulement pensé que ce serait plus facile pour toi. » Obinze leva les yeux et vit qu'elle s'adressait à son fils, mais l'observait, lui, avec dans le regard une lueur mélancolique. Elle était prometteuse, cette rencontre de hasard avec une inconnue, la pensée de chemin sur lesquels elle pourrait le conduire. Le petit garçon avait un adorable visage éveillé.
« Tu vis à Londres ? »
demanda-t-il à Obinze. « Oui, » dit Obinze. Mais ce « oui » ne racontait pas son histoire, à savoir qu'il vivait en effet à Londres, mais une existence invisible, sa vie ressemblant à un dessin au crayon effacé, chaque fois qu'il voyait un policier ou quelqu'un en uniforme affichant la moindre trace d'autorité, il devait lutter contre son envie de prendre ses jambes à son cou. « Il a perdu son père l'année dernière, » dit la femme, d'une voix plus basse. « C'est la première visite à Londres que nous faisons sans lui. Nous avions l'habitude de venir tous les ans avant Noël. » La femme hochait sans arrêt la tête en parlant et l'enfant paraissait contrarié, comme s'il aurait préféré qu'Obinze ne soit pas au courant. « Je suis désolée, » dit Obinze.
« Nous sommes allés à la Tate, »
dit le garçon. « Ça t'a plu ?» Il fit la grimace. «
C'était ennuyeux. »
Sa mère se leva. Nous devons y aller, nous allons au théâtre. Elle se tourna vers son fils et ajouta : Tu ne prends pas ta Game Boy, tu le sais. Le garçon ignora sa remarque, dit au revoir à Obinze et se tourna vers la porte. La mère adressa à Obinze un long regard, encore plus mélancolique que le précédent. Peut-être avait-elle aimé profondément son mari et s'étonnait-elle aujourd'hui de se sentir à nouveau attirée par quelqu'un. Il les regarda partir, hésitant à se lever et à lui demander son adresse, tout en sachant qu'il ne le ferait pas. Il y avait chez cette femme quelque chose qui évoquait l'amour et, comme toujours dans ces cas-là, l'image d'Ifemelu lui vint à l'esprit. Puis, brusquement, une pulsion sexuelle l'envahit. Une vague de luxure. Il voulait baiser une fille. Il allait envoyer un texto à Tendai. Il s'était rencontré à une fête où l'avait emmené Nosa et il avait atterri ce soir-là dans son lit. Tendai, une Zimbabwéenne avertie, large de hanches, qui aimait s'éterniser dans son bain. Elle l'avait regardé avec stupéfaction la première fois qu'il avait fait le ménage dans son appartement et préparé un riz jollof. Elle avait si peu l'habitude d'être bien traitée par un homme qu'elle passait son temps à l'observer, anxieusement, les yeux voilés, comme si elle retenait son souffle, s'attendant à être maltraitée. Elle savait qu'il n'avait pas ses papiers. « Sinon, tu serais le genre de Nigérian qui bosse dans l'informatique et roule en BMW », avait-elle dit. Elle avait un permis de séjour britannique et aurait un passeport dans un an, et elle avait laissé entendre qu'elle serait peut-être disposée à l'aider. Mais il redoutait la complication de l'épouser pour avoir ses papiers. Un jour, elle se réveillerait et se persuaderait que ce n'était pas seulement une histoire de papiers. Avant de quitter la librairie, il envoya un texto à Tendai. « Est-ce que tu es chez toi ? Je serais bien passé te voir. » Il tombait un crachin glacé tandis qu'il se dirigeait vers le métro. Des petites gouttes de pluie qui aspergeaient le col de son manteau, et quand il atteignit la station, il fut frappé par la quantité de crachats qui maculaient les marches. Pourquoi les gens n'attendaient-ils pas d'être sortis pour cracher ? Il s'assit sur le siège taché du train assourdissant, en face d'une femme qui lisait le journal du soir. « Parlez anglais chez vous », dit Blunkett aux immigrants. Il imagina l'article qu'elle était en train de lire. La presse en publiait des tonnes sur le sujet, qui était repris à la radio et à la télévision, et même dans les propos d'une bonne partie des hommes de l'entrepôt. Le vent qui soufflait à travers les îles britanniques était chargé des peurs suscitées par les demandeurs d'asile, engendrant chez tous la crainte d'une catastrophe imminente. Et ces articles étaient écrits et lus, naturellement et avec obstination, comme si leurs auteurs vivaient dans un monde déconnecté du passé, sans avoir jamais envisagé que cette situation était un développement naturel de l'histoire. L'afflux en Angleterre de citoyens à la peau noire ou brune venant de pays créés par l'Angleterre. Pourtant, il comprenait. Il devait être réconfortant, ce déni de l'histoire. La femme referma le journal et le regarda. Elle avait des cheveux bruns, raides, et un regard dur, soupçonneux. Il chercha à deviner ce qu'elle pensait. Se demandait-elle s'il était un de ces immigrants illégaux qui encombraient une île déjà encombrée ? Plus tard, dans le train qui le ramenait vers l'Essex, il remarqua que tous les passagers qui l'entouraient étaient nigérians, que le wagon retentissait de conversations en yoruba et en pidgin, et l'espace d'un instant, il vit cette scène, cette foule débridée d'étrangers de couleur, à travers le regard de la femme blanche du métro. Il pensa à nouveau à la femme du Sri Lanka ou du Bangladesh, et l'ombre du chagrin dont elle émergeait à peine. Et il pensa à sa mère, et à Ifemelu, et à la vie qu'il avait imaginée pour lui-même, et à la vie qu'il menait, marquée par le travail et la lecture, par la panique et l'espoir. Il ne s'était jamais senti aussi seul.